Avec nous, donc, quatre invités. Nathalie Schmid-Nichols, qui est psychologue responsable du Centre d'études et de prévention du suicide au HUG. Sophie Lochet, coordinatrice Stop Suicide. Jean-Paul Stadelman, chargé de projet à Stop Suicide. Et Pierre Goudvirs, qui est donc romancier avec son dernier roman Nuit Blanche. Il viendra nous en parler. Bonjour à tous les quatre, d'ailleurs.
Bonjour.
C'était long l'intro, hein, mais on y arrive. Alors, sujet grave quand même, s'il en est. On va essayer de rester sérieux tout en essayant de voler au-dessus du sujet parce que c'est un sujet très profond et très long à développer. On commence par Stop Suicide. Première partie, ce que vous faites, vous sortez d'une campagne de prévention. Le 10 septembre, c'était la journée mondiale pour sensibiliser au suicide. Qu'en dire, Jean-Paul Stadelman, vous êtes chargé de projet de ce projet. Je tiens à toi.
Alors chaque année, donc, on fait depuis 2005 des campagnes de prévention. Les campagnes de sensibilisation sont pour toute la population. Et cette année, donc, le thème, c'est « Je tiens à toi ». Donc quatre mots pour faire de la prévention du suicide.
Donc en fait, c'est toucher les proches, les amis, la famille.
Alors en fait, c'est toucher tout le monde pour devenir acteur de prévention. Notre but, en fait, dans ces campagnes, c'est de faire parler du suicide, outiller la population aussi face au risque suicidaire. Donc c'est un peu les deux buts qu'on essaye justement d'atteindre par ces campagnes.
Et qu'a donné cette campagne ? Parce que c'était le 10 septembre, donc cela a débuté, on devait noter, écrire, verbaliser ce « je tiens à toi », parce que dans l'absolu, c'est assez conceptuel.
Alors tout à fait, c'est vrai que cette année, donc, on a eu 107 communes de toute la Suisse romande qui ont participé à notre campagne. Et l'idée, on a aussi lancé un concours photo. Et par ce concours photo, c'était donc d'attirer plutôt les jeunes, puisque notre association est faite par les jeunes et pour les jeunes. Et puis, c'est de jouer avec cette pincette ou ces mots « je tiens à toi ». Et puis de les noter, de les donner à un copain, un parent, un proche, pour justement être acteur de prévention et puis faire quelque chose pour la prévention du suicide.
Vous travaillez sur le terrain, vous, Jean-Paul. Pourquoi vous avez été touché ? Pourquoi travaillez-vous dans cette association ?
Puisque c'est une association de jeunes et une dynamique de jeunes. Voilà, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec peut-être peu de moyens. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de mener une campagne, de mener des actions de terrain. Notre campagne, c'est aussi une campagne médiatique, prime abord. Et puis deuxième abord, c'est des actions de terrain auprès des jeunes, dans les maisons de quartier, dans les foyers.
Donc, dans les écoles aussi ?
Pas encore.
Pas encore, voilà. Ça, c'est le sujet qui viendra peut-être au cours de ce 12-13. Sophie Lochet, si vous deviez représenter un peu Stop Suicide dans sa structure, c'est né de quelle idée ? C'est né il y a combien de temps ?
Alors, Stop Suicide est né en 2000. Elle a été créée, c'est une association qui a été créée par trois jeunes qui à l'époque avaient 17 ans, qui avaient perdu un camarade et qui avaient été assez étonnés par le silence qui avaient suivi en fait ce suicide.
Des médias ou de l'entourage ?
Plutôt des institutions, de l'école, de l'entourage. Et du coup, ils avaient organisé une marche blanche à l'époque en 2000, et puis ensuite ils ont créé une association qui était à la base entièrement bénévole, qui depuis a évolué, qui est aujourd'hui composé d'un comité d'une dizaine de personnes bénévoles et puis d'une équipe de à peu près 7 personnes qui travaillent avec des temps très partiels et des stages, mais qui travaillent au quotidien pour la prévention du suicide.
Alors, on ne se rend pas toujours compte de ce que représente aujourd'hui le suicide en Suisse et au monde. Il y a plus de décès liés au suicide que de décès dans les guerres et dans les accidents, donc c'est juste très important. Mais en Suisse, cela donne quoi ?
Alors, en Suisse, on a plus de 1000 suicides par an, 1034 en 2011. Et pour les jeunes, donc les 15-29 ans, il y a 137 suicides par an.
Donc c'est très
en
important.
En 2011, c'est un suicide de jeune tous les 3 jours.
Et donc votre activité, vous, c'est la prévention ?
Notre activité, c'est la prévention grand public et jeune en amont. C'est-à-dire qu'on intervient très tôt et notre idée, c'est de parler du suicide auprès des jeunes et puis de faire parler du suicide. C'est toujours un sujet important parce que j'ai mentionné les cas de suicide, mais il y a aussi des tentatives de suicide. C'est 20 à 25 000 tentatives de suicide par an en Suisse.
25 000 tentatives par an, ouais, c'est juste important. Ouais.
Qui sont énormes et qui ne sont pas toutes repérées. C'est-à-dire que la majorité n'aboutissent pas à l'hôpital.
Alors, normalement, lorsqu'on décide, lorsqu'on choisit, mais on aura plus de précision avec notre psychologue sur le plateau dans un petit instant, de mettre fin à ces jours, parce que c'est quand même un peu tabou ce sujet. Hein. Moi, j'ai un peu de mal à m'exprimer sur ce sujet. On ne l'a pas organisé. Comment on peut faire vraiment de la prévention ? Qu'est-ce qui va changer ? Le jeune, il ne va pas bien. Enfin, j'essaie de faire un peu d'une manière assez vulgaire cette présentation, mais qu'en pensez-vous, Sophie ?
Nous, on pense que le suicide peut être prévenu, sinon on ne ferait pas ce métier-là. Et l'idée, c'est de dire que on peut
donner envie de vivre aux gens.
On peut donner envie de vivre aux gens, on peut repérer quelqu'un qui va mal, on peut l'écouter. Et il existe aussi des structures, donc je pense notamment au CEPS, qui sont là pour aider les jeunes qui ont des envies suicidaires.
Alors, il y a beaucoup de gens qui vont pas bien, Jean-Paul, quand même, chez les jeunes. Moi, j'en ai deux, ils vont jamais bien de toute façon, ils parlent pas beaucoup et autres. C'est pas simple, quand même, d'arriver à déterminer dans notre campagne de prévention et dans notre orientation ce qui va pouvoir changer, effectivement, l'orientation d'un jeune.
Alors, tout à fait, c'est pas simple. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est pas une seule cause, mais donc il y en a plusieurs. Donc, c'est plusieurs facteurs qui peuvent tendre au suicide. Et pour nous, c'est vrai qu'on peut justement faire cette prévention, puisque l'idée, ce n'est pas forcément l'idée de mourir, c'est plutôt l'idée d'échapper à une situation qui nous échappe.
Échapper à une situation donc, où on n'est pas vraiment conscient de ce que l'on fait, c'est ce
Exactement.
Que vous voulez dire. Bon, on en saura un peu plus dans un petit instant au niveau psychologique, si vous êtes d'accord. Merci de nous avoir présenté Stop Suicide. Alors, cette campagne est terminée.
Alors, elle a commencé donc le 10 septembre donc et elle se termine plus ou moins actuellement. C'est
d'accord.
vrai qu'on contacte encore des maisons de quartier, des foyers pour justement mener des actions de terrain avec des jeunes jusqu'à la fin de l'année par rapport à la campagne, dans le cadre de la campagne.
Il y a aussi une BD.
Tout à fait. Donc, on a hier eu le lancement de la BD. Donc, on a fait une BD au niveau santé mentale avec plusieurs acteurs. Pas forcément suicide, mais il y a aussi d'autres associations qui participent à cette BD.
C'est la journée mondiale de la santé mentale aussi, il y a quelques jours de cela. Et puis, un concours photo.
Voilà,
vous arrêtez pas, quoi.
Qui est maintenant terminé, puisque c'était dans le cadre de la campagne. Donc le concours photo a été lancé du 10 septembre au 25 septembre. Et puis l'idée, c'était donc de jouer sur ces mots « je tiens à toi », soit avec la pincette, soit avec des petits mots qu'on pouvait justement s'envoyer à des proches, à des amis, à des copains.
Très dynamique cette structure Stop Suicide. On revient juste après Francis Cabrel. Alors, ce n'est pas une des chansons de Francis Cabrel les moins tristes, hein, c'est clair. C'était l'hiver et cela représente justement un cas de suicide lorsque lui était jeune et qu'il l'a vu. Francis Cabrel, c'était l'hiver.
Elle disait j'ai déjà trop marché, mon cœur est déjà trop lourd de secrets, trop lourd de peine. Elle disait, je ne continue plus, ce qui m'attend, je l'ai déjà vécu, c'est plus la peine. Elle disait que vivre était cruel, elle ne croyait plus au soleil, ni au silence des églises. Même mes sourires lui faisaient peur, c'était l'hiver dans le fond de son cœur. Jamais été plus froid, la pluie plus violente que ce soir-là, le soir de ses 20 ans, le soir où elle a éteint le feu derrière la façade de ses yeux, dans un éclair blanc. Elle a sûrement rejoint le ciel, elle brille à côté du soleil, comme les nouvelles églises. Mais si depuis ce soir-là je pleure, c'est qu'il fait froid dans le fond de mon cœur. Elle a sûrement tendrement rejoint le ciel. Elle brille à côté du soleil, comme les nouvelles églises. Mais si depuis ce soir-là je pleure, c'est qu'il fait froid dans le fond de mon cœur.
Radio, cité, Genève.
Il est 12h17 sur Radio Cité Genève. Si vous passez à table, on vous souhaite un bon appétit. En ce qui nous concerne, autour de la table, quatre intervenants pour parler du suicide chez les jeunes. La structure Stop Suicide avec Sophie Lochet et Jean-Paul Stadelmann. Nathalie Schmid-Nicole, psychologue pour le Centre d'études et de prévention du suicide au HUG. Et puis Pierre Gurdwig, qu'on écoutera dans un petit instant, auteur du roman Nuit Blanche. Elle disait que vivre était cruel. Elle ne croyait plus au soleil ni aux lumières des églises. Même mes sourires lui faisait peur. Ça vous dit quelque chose, ça, Nathalie Schmid-Nicole, ce genre d'état d'âme, j'ai envie de dire les fleurs du mal de Charles Baudelaire, tout va mal. Mm-hmm. C'est un peu le cas de figure d'une période de l'adolescence chez les jeunes où on tenterait plutôt d'arrêter tout.
Oui, effectivement, ça parle bien de ce que l'adolescent peut vivre, un adolescent vif et vulnérable, j'ai envie de dire, c'est-à-dire un adolescent qui est tourmenté, qui se transforme, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, son corps change, il a des émergences pulsionnelles étranges, il a des pensées qui le débordent par moments, et il ne trouve pas toujours les mots pour exprimer, pour donner du sens à ce qu'il ressent, et effectivement pour le communiquer à certains moments à des tiers.
Il ne trouve pas sa place également, c'est ça, quelque part aussi, le fait de ne pas vouloir continuer dans un monde où on n'a pas sa place.
Oui, c'est effectivement pertinent, c'est-à-dire que trouver sa place, c'est en trouver une autre place, c'est une place en devenir, une place qui change, c'est plus un enfant, c'est pas encore un adulte. Comment se positionner? Il y a toute la question de pouvoir prendre son indépendance.
Alors, on parle à des parents actuellement, je pense en tout cas, peut-être moins de jeunes. On parle à des parents et on se sent toujours concerné par ces sujets-là. Parce qu'on dit ça ne nous arrivera pas, ça arrive qu'aux autres, bien souvent. Parce que moi ou ceux qui nous écoutent, en tout cas, on communique avec nos enfants. On a l'impression que c'est un cas extrême où il y aurait des alertes. Ce n'est pas toujours le cas. Vous êtes d'accord avec cela?
Non. Ce n'est
pas si simple que ça.
Non,
c'est pas
très
une typologie.
Pas du tout, et c'est parfois même très difficile d'avoir les signes d'appel d'un jeune. C'est-à-dire que souvent, quand il passe par l'acte, c'est qu'il a pas, il n'arrive pas à le dire autrement, hein, à le communiquer de manière claire. Il peut le laisser entendre parfois, pas toujours au bon endroit.
Comment?
En évoquant.
Quels sont ces signes qui permettraient de se dire oula?
Alors, je dirais les signes les plus fréquents, c'est le changement d'humeur, changement. Le retrait aussi, on a fréquemment ces commentaires-là. Parfois, les baisses, des changements au niveau des, par exemple, des résultats scolaires, au niveau des compétences même, par exemple, sportives, ou des jeunes qui arrêtent certaines activités de manière comme ça massive. Enfin, un ensemble de...
Ces jeunes en parlent autour d'eux, à leurs copains, à leurs amis, à la tante, parce que bien souvent, ils ne vont pas parler aux parents directement, à la tante, à l'oncle.
C'est-à-dire
on
qu'ils
parle
en
pas du tout.
Parlent parfois, mais ils n'en parlent pas toujours de manière très claire. Hein. Ils mentionnent quelque chose autour de questionnements qu'ils ont. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est quand ils le confient à d'autres jeunes, c'est des jeunes qui sont eux-mêmes en recherche.
Nathalie Schmid-Nichols, pourquoi on ne parle pas du suicide? Pourquoi on n'en parle pas plus? Pourquoi ce fait aujourd'hui, ce constat qui a été donné par Stop Suicide est encore un tabou? Pourquoi on a peur même... on se dit, après tout, on préfère pas trop en parler. Parce que peut-être ça pourrait donner des idées.
Alors oui, il y a effectivement l'angoisse de la contagion. D'ailleurs, c'est un phénomène qui existe. Hein. On parle de l'effet Werther. On a constaté à la publication d'un roman il y a fort longtemps que suite à cette publication, il y avait effectivement une montée du taux de suicide chez les jeunes. Et on a été attentif au phénomène de la contagion chez les jeunes. Donc en parler, c'est important, mais il faut le faire de manière extrêmement rigoureuse et attentive aux effets que ça peut avoir.
Alors, il y a quelques instants, Sophie Lochet nous disait, oui, ben voilà, le jeune va mal, il est dans une période difficile, vous reprenez aussi cela, mais en fait, beaucoup de jeunes vont mal, on est dans un monde qui est quand même assez complexe, même pour les plus âgés. Est-ce que, aujourd'hui, le monde ne crée pas aussi un manque d'espérance? Est-ce que, quelque part, on n'a pas envie de s'atteler à ce monde où tout est codifié, tout est quadrillé, il y a des exigences incroyables, il faut venir bosser à telle heure, plus de liberté? Est-ce que ce monde-là, même si les chiffres prouvent le contraire.
Écoutez, c'est une question complexe. Je ne sais pas si on a plus de liberté ou moins de liberté qu'à l'époque. Je pense que toutes les sociétés ont toujours travaillé. Ce qui peut-être caractérise notre société, c'est qu'il y a peut-être un peu moins de solidarité et la communication change et qu'on travaille, on communique de plus en plus par des médiations à distance. Et la place du collectif est aussi beaucoup moins importante.
Pourtant, les jeunes sont systématiquement derrière les SMS, les Twitter, les Facebook. Donc, il n'y a jamais eu autant de communication, Nathalie Schmidt-Nichols.
Oui, mais de communication indirecte.
Grille de lecture.
Communication indirecte.
C'est important, ça ?
Oui, c'est important. Parce que je pense que quand on est en présence, il ne se dit pas les mêmes choses, on ne ressent pas les mêmes choses que quand on est à distance.
Vous avez des parents derrière l'antenne actuellement, Nathalie Schmidt-Nichols, vous leur diriez quoi ? Parce qu'on parlait de prévention avec Stop Suicide, eux ils agissent par des campagnes, ils agissent avec des bandes dessinées, avec des concours de photos ou encore avec la possibilité de dire « je tiens à toi ». Vous diriez quoi à des parents ? Parce que c'est vraiment une situation qui est complexe, on a les enfants depuis tout petit, on n'entend pas forcément cela, on n'entend pas forcément ce cri d'alerte.
Écoutez, alors c'est difficile de dire ce qu'il faut dire hein, et ce qu'il faut faire parce que à chaque situation, sa singularité. Je dirais tout d'abord, ce qui est important, c'est de pouvoir se rencontrer, être ensemble, passer du temps ensemble, parce que se dire les choses, ça ne se fait pas comme ça en quelques minutes. Ça prend du temps, surtout quand il s'agit d'un mal-être intérieur. Nous, au CEPS, donc le centre dont je suis responsable...
Centre d'études et de prévention du suicide.
Voilà, qui en fait a son existence grâce à un partenariat entre les hôpitaux universitaires de Genève et une fondation privée, la fondation Children Action, qui a permis qu'au sein du soin puisse se créer une structure de prévention. Ce qu'on défend, c'est que il y a toutes sortes de médiation à distance, comme je l'évoquais, le téléphone, Internet, etc. Et ça, c'est une forme de communication. Mais rien ne remplace la rencontre en présence. Et que notre manière de travailler est aussi d'inciter les jeunes à venir nous rencontrer.
Je vais être direct, Nathalie. Est-ce que vous croyez qu'un jeune qui ne va pas bien et qui ne va pas réfléchir forcément dans son acte de rupture avec la vie va venir dans un centre comme le vôtre ?
Pas spontanément. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec l'entourage. C'est-à-dire que notre premier travail est d'aider à aider. Effectivement, on n'a pas forcément envie de venir voir des psys en plus de ça. Mais par contre, on est au service du réseau, hein, du réseau de proximité, les proches, que ce soit d'autres jeunes, que ce soit des parents, que ce soit des professionnels. Plus ou moins spécialisé dans le domaine.
C'est votre travail au CEP, au CEPS, hein, parce que c'est le Centre d'études et de prévention du suicide. Vous avez aussi un Help Ado Line. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Alors, une aide, en tout cas, pour les ados en ligne par téléphone.
Voilà, effectivement. Une ligne téléphonique 24 heures sur 24, 022 382 42 42. Où des professionnels répondent en toute confidentialité.
C'est les ados qui vous appellent ?
Les ados, pour eux-mêmes, pour d'autres ados. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir combien les campagnes de prévention ont des effets intéressants. C'est qu'en fait, les ados qui nous téléphonent viennent des fois nous demander si ce qu'ils ont fait est bien. Est-ce qu'ils se sont bien réagis ? Et on voit qu'effectivement, ils développent des compétences extrêmement pertinentes.
Nathalie, vous êtes dans le service de psychiatrie. Est-ce que cela veut dire que le suicide pose des cas de déficience mentale ou de problèmes justement liés à cette santé mentale ?
Alors,
peu direct avec vous, hein, je ne vous fais pas de cadeau.
Dans un certain nombre de cas, effectivement, on peut avoir une association entre phénomènes suicidaires et ce qu'on appelle des psychopathologies mentales, mais ce n'est pas du tout la majorité des cas. Hein. Je pense que ça montre bien combien le problème du suicide à l'adolescence est quelque chose de particulier autour d'une période de vulnérabilité.
Merci Nathalie Schmidt-Nichols. Je rappelle que vous êtes psychologue responsable du Centre d'études et de prévention du suicide. Vous avez répondu à pas mal de questions hein, au service donc, de psychiatrie des HUG. Il est 12h26. On écoute Ian Tiersen. Moi, je l'ai gardé pour le 12-13 parce que j'ai trouvé que c'était un peu cette notion de mélancolie en même temps de dynamisme. Là, je ne sais plus si c'est la mélancolie et le dynamisme. On l'écoute tout de suite. Thank you. Le 12-13 aujourd'hui avec quatre invités autour du suicide chez les jeunes. Quand on parle de jeunes, Sophie Lochet, on s'arrête à quel âge en général? Sans parler de statistiques, mais on s'arrête à quel âge? Parce que c'est vrai, les jeunes c'est quoi? C'est moins de 20 ans?
Alors pour nous c'est les 15-29 ans, mais quand on va dans les écoles, on est plutôt effectivement en dessous de 20 ans. Enfin quand on va dans les foyers, quand on parle à des jeunes. Et notre BD s'adresse aussi aux moins de 20 ans.
Votre bande dessinée effectivement qui vient juste de sortir il y a deux jours. Alors, juste avant de parler du roman de notre autre invité, Pierre Gurdwitz, un dernier mot sur... j'ai oublié, donc voilà, on est passé à autre chose. Je voulais vous poser une autre question. Ah, ça y est, elle y est. Cette question, Sophie, les chiffres, parce que c'est vrai que ces chiffres sont importants. On dit que c'est la première cause de mortalité en Suisse, mais c'est combien de personnes qui mettent fin à leur jour de moins de 29 ans en Suisse aujourd'hui?
C'est 137 personnes en 2011.
C'est très important, sans parler de tentatives.
Ouais, les tentatives, on estime qu'elles sont beaucoup plus importantes, 10 à 15 fois plus chaque année.
Alors, je vais arriver au roman, mais je me tourne quand même vers Nathalie. Les tentatives, quand il y en a beaucoup, je crois avoir entendu cela de psychologue, quand il y en a beaucoup, c'est peut-être moins grave que quand il n'y en a qu'une, parce qu'en général, on ne se rate pas quand on essaye une fois. Vous êtes d'accord avec ça? Non,
non, il y a pas du tout. Absolument pas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le principal facteur de risque d'une tentative de suicide, c'est une tentative de suicide. C'est-à-dire quand il y en a une, le risque est que ça se répète. Et que par conséquent, c'est là aussi qu'on peut intervenir de manière assez rapide. Donc ne jamais banaliser.
Mettre fin à ces jours, qui n'y a pas pensé? C'est la question que j'ai lue encore dernièrement sur le journal français Le Monde. Qui n'y a pas pensé? Alors je ne sais pas si on va développer dans ce sujet, mais en tout cas, un livre sort de Pierre Gurdwitz, Nuit Blanche, aux éditions Pierre Philippe. Bonjour Pierre.
Bonjour Gilles.
Vous avez été patient, merci. Vous avez écouté vos collègues.
Je suis en bonne compagnie.
Vous avez été sensible à ce qui a été dit?
Oui, bien sûr, bien sûr. Une chose m'a interpellé toutefois, c'est le fait de pouvoir prévenir au fond, parce que pensant à notre fils disparu, quand je pense à lui, je pense à une sorte de verre en cristal qu'on souhaiterait tenir fermement dans ses mains, entre ses mains, pour qu'il ne tombe pas. Et j'avais toujours le sentiment, face à lui, d'une très grande fragilité par rapport à son désir de vie. Alors finalement, est-ce qu'on peut obliger quelqu'un, même son plus proche, un enfant, la chose à laquelle on tient le plus, à rester en vie? Est-ce qu'on a le droit de transformer en forçat de la vie un jeune qui décide de ne plus vivre? Parce que je crois que le suicide, ça n'est pas le fait de vouloir mourir, mais c'est le fait de ne plus vouloir vivre. Et peut-être que l'amour paternel ou maternel devrait aller tellement loin qu'il pourrait consister à dire « mais au fond, si c'est ce que tu souhaites, il faut aller jusqu'au bout ». Ce qui est une chose évidemment épouvantable, impossible, inimaginable, parce que c'est contre l'ordre de la nature. Mais je me pose la question, et je la pose notamment à notre psychologue, est-ce que réellement, lorsqu'un jeune décide de ne plus vouloir vivre, est-ce qu'on peut le convaincre que la vie en vaut la peine?
C'est à vous, oui.
Le convaincre, je pense que c'est j'ai envie de dire presque un vœu pieux. Non, je ne pense pas qu'on puisse convaincre quelqu'un. Par contre, le travail peut consister à essayer d'identifier ou d'aider la personne à identifier sur qu'est-ce qu'elle ne veut plus vivre. Hein, parce que effectivement, elle ne veut pas mourir, mais il y a quelque chose en trop, il y a quelque chose qui est douloureux et qui est éminemment intime. Et c'est très difficile d'y accéder. Donc ça prend du temps. Voilà.
Vous avez votre réponse, Pierre, pas la totalité, mais juste les éléments.
Oui, oui, certainement, certainement.
En tout cas, très émotionnel avec vous, évidemment, Pierre Gurdwig, parce que vous sortez ce roman qui n'est pas autobiographique, mais qui est quand même tiré du vécu, puisque vous avez perdu votre fils en 2007, au mois d'octobre en plus. Il n'avait que 19 ans. Vous m'avez dit, je ne penserais pas qu'on arriverait à survivre à cela. C'est dur comme phrase.
Effectivement, c'est vrai. Et je découvre, au fond, avec le temps qui passe, qu'il y a une sorte d'animal qui est en nous, crie de sa petite voix, vie continue, ça se passe devant. Alors, c'est évidemment un peu surréaliste, parce que lorsqu'on vit quelque chose qui est contre l'ordre de la nature, c'est-à-dire, au fond, enterrer un de ses enfants, les mots n'ont plus vraiment de sens. On est dans une autre réalité, il y a un décalage qui s'installe aussi avec les autres, finalement, les autres au sens générique. Et je me souviens d'avoir croisé, quelques semaines après ce drame, une voisine tout à fait charmante, d'ailleurs, qui me regarde avec de grands yeux et qui me dit, l'air étonné, comment ça ne va pas mieux? Donc, c'est là où on s'aperçoit que...
Comment ça ne va pas mieux?
C'est-à-dire, même après 3 semaines, tu n'as pas réussi à te remettre.
Oui.
Donc, on se rend compte que l'espace et le temps prennent une autre couleur, et que finalement le décalage qui s'installe avec les autres va toujours grandissant.
L'espace, le temps et l'action, Pierre Gutwirth, parce que vous m'avez dit, ce livre, c'est une façon de transformer un cri de détresse stérile, donc qui resterait intérieur, en un message d'espoir dans la réussite pour l'attention des autres envers leurs enfants. C'est beau, ça, comme message.
Oui.
Aujourd'hui, vous battez, quoi, en tout cas, vous partagez.
C'est ça. C'est-à-dire que l'idée, comme vous l'avez très bien souligné, c'est de transformer quelque chose de stérile en quelque chose d'utile, en me disant, voilà, dans ce livre qui s'adresse à un lectorat très large, il y a un message pour les parents, ceux que j'appelle les parents du monde, parce que quelle que soit leur langue, leur culture, ils sont confrontés à leurs adolescents et aux surprises que réservent les adolescents. C'est une façon de leur dire, accordez à vos enfants cette unité d'attention qui leur manque, qui va peut-être, qu'ils ne réclament pas, parce qu'ils sont pudiques, les adolescents. Ils nous font croire qu'ils vont bien.
Vous n'aviez pas de signe, en tout cas. Vous.
Mais c'est ça, le drame, précisément. Et c'était aussi une des questions que j'aurais souhaité poser à nouveau, dans le sens où les fameux signaux à décrypter sont d'abord très rares, et puis ils vous fourvoient, finalement. Notre fils nous a fait croire qu'elle est très bien, finalement, puisqu'il nous interpellait sur des questions tout à fait banales, de façon à éluder le sujet gravissime. Donc la question que je souhaiterais vous poser encore une fois, madame, c'est comment décrypter des signaux qui sont au fond autant de faux signaux?
Oui, et éminemment singulier aussi. Hein. Je ne crois pas qu'on puisse... Quand je parlais des signes d'appel, je crois que c'est vraiment au niveau de... On est au niveau macro, c'est-à-dire on constate de manière générale qu'il y a ces aspects-là qui apparaissent. Mais à chaque situation, ses particularités, y compris le fait qu'il n'y a pas forcément de signes. Et cette pudeur que vous évoquez, elle est très importante parce qu'elle est en lien aussi avec l'idéal. Hein. L'adolescent a des idéaux. Et parfois, voir qu'on ne va pas bien, c'est aller à l'encontre de certains idéaux.
Pierre Gurdwirth, voilà, j'espère que je prononce correctement. Nuit blanche, c'est pas autobiographique, ce roman, mais en même temps, vous parlez d'un jeune, d'un ado, qui va passer aussi à l'acte, comme on dit. C'est facile de dire ça, passer à l'acte. Moi, j'aime pas trop, mais c'est vrai qu'on a un peu de pudeur en disant, voilà, il va mettre fin à ses jours.
Bon, vous savez, la ligne est très fine, finalement, entre les aspects autobiographiques et puis... on va dire la partie romancée. Mais je crois que je souhaiterais juste revenir à une chose que vous venez de dire, madame, et qui me paraît aller tout à fait dans le sens, parce que on est dans le vif du sujet, c'est l'idéal. Finalement, l'impression que nous avons eue par rapport à notre fils disparu, c'est que le fossé entre sa vision idéalisée d'un monde d'être beau et bon, comme l'avait envisagé Aristote, notamment, le fossé entre ce monde merveilleux et une réalité finalement de violence et de cruauté peut devenir tellement insupportable que fuir ce fossé, fuir cette différence aurait pu, mais c'est qu'une hypothèse de travail évidemment, aurait pu au fond catalyser ce désir non pas de mourir, mais de ne plus vivre.
Voilà, merci en tout cas Pierre Gurdwick, on a suivi que vous n'aviez pas envie vraiment de parler beaucoup du livre, mais de partager ces émotions et intenses autour de ce plateau, et on vous remercie en tout cas Pierre.
Je ne voulais pas en fait kidnapper l'attention sur le livre, parce que je pense qu'elle est vraiment réservée à l'association et au message qu'elle passe, mais si vous m'invitez une deuxième fois, j'en parlerai volontiers.
Merci en tout cas, et puis question pertinente, merci aussi à vos réponses Nathalie Schmid-Nichols. On se retrouve pour une dernière petite décennie de minutes où on parlera des médias, de la place des médias, de la prévention à l'école, et puis pourquoi pas de politique. Et ça, ce sera après Aaron U-Turn. C'était d'ailleurs un film où d'ailleurs l'un des jeunes, le frère de cette jeune qui est un peu l'héroïne du film, est parti, mais malheureusement, il ne revient pas. Il dit « Je vais bien, ne t'en fais pas ». C'est un peu ce que vous disiez, Aaron.
Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much dirt you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, you know there's still a place for people like us. The same blood runs in every hand. You see, it's not the wings that make the angel. You just have to move the bats out of your head. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, easy as a kiss, we'll find an answer. Put all your fears back in the shade. Oh, don't become a ghost without no cutter. 'Cause you're the best paint life ever made. For every step in any walk, any town of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide.
Cité Genève,
92.2.
92.2.
Il est 12h41 sur Radio Cité Genève. J'espère que vous passez d'agréables moments, même si le sujet est grave, mais en même temps, beaucoup d'informations sont partagées. La possibilité aussi d'apprendre avec le témoignage, il y a un instant, de Pierre Goudwirt, donc qui sort aussi un livre, un roman, Nuit Blanche, que nous retrouverons certainement sur les ondes de Radio Cité Genève. Alors, tous les quatre, donc Nathalie Schmidt-Nicol, psychologue et responsable du Centre d'études et de prévention des suicides au service de psychiatrie des HUG, Sophie Lochet, coordinatrice de Stop Suicide, et Jean-Paul Stadelman, responsable donc de projet pour Stop Suicide. Maintenant, des questions ouvertes, un petit peu le débat, si vous le voulez bien, votre compagnie. Et on va commencer peut-être par l'école, parce que c'est là qu'on est tous touchés et sensibles, c'est là que commence l'éducation, les orientations d'une existence. Est-ce qu'à l'école, aujourd'hui, il y a une prévention pour le suicide? Est-ce qu'il y a des explications? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Alors, la parole est ouverte à chacun. On peut aussi exprimer ce que l'on pense de ce qui se passe à l'école ou de ce qui ne se passe pas. À vous la parole, messieurs, dames. L'école, est-ce qu'on fait quelque chose, Sophie Lochet?
Alors, en tout cas, dans le canton de Genève, on ne fait pas à l'école de promotion de la santé mentale et de prévention du suicide. En tout cas, pas systématiquement, c'est-à-dire que quand c'est fait, ça part d'initiatives individuelles d'un professeur, d'un directeur de cycle. Donc il n'y a pas de programme systématique aujourd'hui à l'école sur les questions santé, c'est l'éducation sexuelle, la lutte contre l'obésité, donc un peu manger, bouger, mais pas aujourd'hui, pas encore la santé mentale.
Alors je ne me trompe pas, le 25 septembre dernier, pourtant vous avez fait une campagne et vous êtes allé voir tous les politiques pour leur demander s'il fallait changer quelque chose, et la première réponse, c'est sensibiliser en milieu scolaire, c'est atteindre les jeunes quand ils se forment. Mais alors, les actions?
Alors, on est allé voir effectivement.
Avant les votes pour le Grand Conseil. Oui.
On a profité de la campagne pour aller rencontrer les candidats au Conseil d'État et on a envoyé un questionnaire à tous les candidats au Conseil d'État et au Grand Conseil à Genève. On a eu à peu près une trentaine de réponses, donc ce qui est relativement faible. Par contre, dans les réponses, on a eu beaucoup de marques de soutien quant au travail de l'association. Et ce qui nous a vraiment intéressé, c'est que quand on demandait aux politiques où est-ce qu'il faut faire de la prévention, ils nous répondent à l'école. Or, ce n'est pas forcément ce qui se passe.
Nathalie Schmidt-Nicol, vous faites des choses, vous, avec l'école, ou il y a des choses qui existent, que vous connaissez, que vous avez envie de valoriser, ou justement de dévaloriser, peut-être?
Alors, déjà parler de ce qui se fait sur les lieux scolaires, je pense que, pour reprendre ce que Sophie Lochet disait, à part l'initiative personnelle, il n'y a peut-être pas de programme au niveau politique. Maintenant, au niveau individuel, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, en particulier, alors, par des professionnels spécialisés dans les écoles. Bien entendu, il y a l'attention des enseignants, mais il y a par exemple les infirmières scolaires qui font un travail énorme, les conseillers sociaux, conseillers scolaires, qui sont et qui développent un travail de réseau de manière très attentive et avec lesquels, par exemple, on travaille beaucoup. Donc nous, notre lien avec l'école, il peut se passer par ce biais-là, par exemple, c'est-à-dire un professionnel qui nous appelle et qui nous demande notre avis sur une situation qu'il a et dans laquelle on peut entrer en jeu. Il y a aussi d'autres types d'activités qu'on peut faire. Par exemple, c'est des activités de rencontre avec des groupes de jeunes dans des milieux spécialisés, par exemple, ce qu'on appelle les semestres de motivation. Ça nous est arrivé de faire ce genre de choses.
Mais c'est encore au compte-gouttes quand même.
Oui, c'est-à-dire qu'on travaille avec la demande, en fait.
Ce n'est pas une vraie politique pour l'instant.
Ou des cafés parents, il est arrivé qu'on fasse ça. Etc.
Merci Nathalie Schmidt-Nicols. Pierre Goudwirt, vous avez fait un petit témoignage tout à l'heure. Enfin, je dis témoignage parce qu'on est dans l'ordre de l'émotionnel, de l'expérience personnelle aussi. Est-ce que le fait d'aller dans les écoles, comme cela, de parler de son expérience pour vous ou d'autres, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être aussi une solution pour sensibiliser, non pas seulement sur l'information, mais pour le ressenti de ce qui se vit dans une situation de suicide?
Alors Gilles, nous avons tenté de le faire, nous avons tenté d'approcher un collège de bonne réputation, un collège Genevois que je ne citerai pas. Et finalement, en proposant donc une table ronde qui était articulée autour du roman, mais du sujet en particulier, et au fond on a été confronté à une fin de non-recevoir, comme si au fond ce sujet demeurait quand même très délicat.
Merci Pierre. Eh bien, on se retrouve tout de suite parce qu'en fait, je pensais faire un peu plus court et puis on va faire un peu plus long parce qu'on va faire un chapitre média. Alors, on se réécoute Yann Tiersen. J'adore cette chanson et puis elle est peut-être l'émotion justement de cette période de l'adolescence où on passe de la frivolité à des sujets graves, des sujets sérieux, de remise en question. Et puis on parle des médias. Est-ce qu'on parle du suicide dans les médias? Est-ce qu'on devrait en parler et comment on le fait?
Thank you.
Stop Suicide, l'association, est notre invitée aujourd'hui avec Sophie Lechet et Jean-Paul Stadelmann, la psychologue et responsable du Centre d'études et de prévention du suicide Nathalie Schmidt-Nichols et le romancier Pierre Goodwick pour parler pour parler donc de son roman Nuit Blanche. Enfin, c'est fait déjà, enfin rapidement. On revient à ce suicide, à ces cas donc chez les jeunes aujourd'hui, très important, la cause de mortalité principale en Suisse pour les moins de 29 ans. Est-ce qu'on en parle dans les médias ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on en parle bien ou est-ce qu'on en parle mal ? C'est la question que je vous pose. Alors, on va faire peut-être un petit tour de table avec la psychologue déjà, le mot de la psychologue, comme on dit, Nathalie Schmidt-Nichols. Vous avez un retour, vous, auprès des médias ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on a un peu peur d'en parler ? Est-ce que c'est tabou ? Je parle bien sûr du suicide chez les jeunes.
Mm-hmm. Mais c'est extrêmement difficile d'en parler dans les médias. Je pense que tout à l'heure, l'association Stop Suicide pourra s'exprimer sur les recommandations qu'on peut faire. Effectivement, on peut voir de temps en temps un article qui évoque cette thématique-là. Ce qui est très complexe avec les adolescents, c'est que, comme on l'évoquait tout à l'heure, ils sont facilement pris dans des phénomènes d'imitation. Ils peuvent s'identifier aux personnages dont on parle. Donc, on doit faire très attention à ne pas justement mettre en avant une personnalité, ne pas donner des signes qui permettent aux jeunes de s'accrocher et de vouloir ressembler à ce...
Alors, en fait, ressembler plutôt et s'accrocher à la vie, Sophie Lechet, c'est ce que vous faites. Hein. C'est pas un peu ça, en fait, la prévention du suicide, c'est de donner des raisons de continuer de vivre ?
Alors oui, mais...
Elle était bonne ma question quand même, Sophie.
C'est aussi ce qu'on essaye de faire dans nos actions de terrain, mais là je laisserai plutôt Jean-Paul parler de ça.
Jean-Paul, oui. Jean-Paul, allons-y. Stadelmann,
sur les actions de terrain. Oui, donc c'est justement l'idée de promouvoir la vie, et puis c'est justement de parler des facteurs peut-être de protection. Donc qu'est-ce qui pourrait nous rattacher justement à la vie, et c'est ce qu'on essaie aussi de discuter justement avec les jeunes directement dans nos actions.
Par exemple, vous avez quelques exemples à nous donner sur le terrain ?
On a par exemple des affiches, des outils qu'on utilise, des affiches de célébrité pour montrer justement que certaines personnes qui ont eu peut-être un parcours pas forcément évident, qu'on réussit à s'en sortir et par quels moyens. Et c'est l'idée justement de regarder avec eux, ça peut être toute forme, ça peut être du sport, ça peut être de la musique.
Qui par exemple est passé par là ?
On a pris par exemple Nelson Mandela comme exemple, avec son parcours. On parlait aussi du racisme avec les jeunes, typiquement, c'est quelque chose qui est aussi souvent abordé dans nos actions de terrain.
Beaucoup aussi, alors, il y a un cas que vous m'avez mentionné, mais très rapidement, le taux de suicide chez les homosexuels, hein, j'essaie de m'exprimer correctement, il était très important. Est-ce que c'est encore le cas, rapidement ?
C'est encore le cas, les dernières études montrent qu'il y a 2 à 5 fois plus de risques de suicide chez les jeunes hommes homosexuels, 2 à 4 fois plus chez les jeunes femmes lesbiennes.
Et vous faites quoi, vous, pour ça ?
Alors, on travaille en partenariat avec les associations LGBT sur Genève en Suisse romande. Notamment, on travaille très bien avec la Fédération LGBT, qui est un groupe totem, qui est un groupe d'accueil, de parole pour des jeunes. Et on a fait récemment, avec Nathalie Schmidt-Nichols, une formation, sensibilisation à l'attention des animateurs de ces groupes. Ils font aussi, le groupe totem, ils font aussi partie de la bande dessinée. On a créé une histoire avec eux. Donc voilà, c'est un sujet qui nous intéresse et sur lequel on travaille.
Le suicide et les médias. Pierre Goodwirt, un mot, vous en pensez quoi ? Parce que vous avez été touché de plein fouet en 2007 au sein de votre famille. Vous pensez qu'on en parle suffisamment ou qu'on n'en parle pas bien ou... C'est un peu tabou dans les médias ?
Oui, je crois que le mot tabou inévitablement ressurgit. J'étais confronté au tabou finalement. Et surtout au fait que chacun raisonne par analogie. C'est-à-dire que le regard qu'on pose sur vous lorsque vous êtes un parent en deuil est évidemment un regard de compassion dont on n'a pas toujours envie. Et puis,
Vous avez envie de quoi ?
Qu'on parle d'égal à égal, finalement.
Normal.
Oui, absolument. On souhaite rester digne et poursuivre notre chemin, avec autant d'élégance que possible. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a dans ce double regard une dimension, on va dire, que je décrirais comme quelque chose, un raisonnement par analogie. C'est-à-dire, celui qui vous regarde ou celle qui vous regarde se dit, en vous regardant, comment ferais-je dans pareil cas ? Et c'est très compréhensible, c'est très humain, mais ce regard qu'on pose sur vous, toujours ce même regard au fil des mois est pesant.
Est-ce que vous ne croyez pas aussi, comme moi j'ai eu l'impression quand je vous ai accueilli il y a une heure de cela environ, on ne sait pas trop quoi dire. tout simplement, parce qu'on ne sait pas trop comment la personne est touchée émotionnellement, Pierre Godwig.
C'est très délicat. Effectivement, on a le sentiment qu'il faudrait...
On a peur de toucher, on a peur de blesser.
En même temps, si on ne souffre pas soi-même, on ne le sait pas, mais on est constamment, finalement, en pensée avec le disparu, les disparus, et c'est un danger aussi, parce qu'on court le risque de mettre toujours les disparus au centre de l'attention, et il faut s'occuper, bien sûr, des vivants. C'est truffé de danger.
Merci d'être venu en tout cas témoigner, Pierre Goodwirt. Je rappelle, vous sortez un roman, Nuit Blanche, vous viendrez nous en parler sur Radio Cité dans notre chronique littéraire avec Sita Potachirova. Le El Pado, Line, voilà, ça c'est pour le centre d'études et de prévention du suicide. C'est le 022 382 42 42, c'est bien cela
hein? Oui, c'est bien cela.
382 42 42, et c'est pas une urgence. C'est bien cela,
Nathalie. Non, ce n'est pas une ligne d'urgence, c'est une ligne d'écoute et d'aide, donc qui répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est donc sans frais hein, pour les personnes appelant,
Oui, on vous suit.
Non, en fait, j'ai un problème avec...
Avec votre casque. Alors voilà, on va vous couper votre casque, dites-nous, pour terminer cette ligne.
Auxquelles des professionnels donc répondent 24 heures sur 24 pour les personnes et jeunes en difficulté, y compris les professionnels qui travaillent à côté des jeunes.
Merci. Donc, je rappelle que vous êtes responsable de ce centre. Donc, 022 382 42 42. Stop suicide. La prochaine campagne, c'est quoi?
Alors, 10 septembre 2014.
Ah, c'est l'année prochaine.
La prochaine campagne.
Voilà. Et ce sera quoi? On ne sait pas.
Ah, ça, c'est encore à découvrir.
Je tiens à toi, ça c'était l'année dernière. Exactement. On verra pour l'année prochaine. Vous allez encore nous concocter quelque chose. Sophie Lochet, ça se passe bien. Stop Suicide, en tout cas, la dynamique est bonne. C'est jeune. C'est la jeunesse.
Oui, la dynamique est excellente.
Vous êtes plutôt optimiste sur le travail qui est fait.
Très optimiste. Et est-ce que je pourrais glisser un mot les médias? Parce qu'on a parlé de médiatisation du suicide tout à l'heure. Ouais. Et nous, on a un programme, on a Irina Inostroza qui fait un travail excellent chez nous de sensibilisation. En fait, elle va dans les rédactions, elle va aussi parler aux élèves en journalisme. Et elle a créé un document avec tout un groupe qui s'appelle Point de repère à usage des journalistes et qui va sortir fin novembre.
Point de repère à usage des journalistes. Voici qui est intéressant de donner de l'information. On a largement débordé notre temps, mais enfin, à 4 sur le suicide, on ne pouvait que mieux faire, évidemment, au niveau du timing, c'est-à-dire 2 ou 3 sujets. Merci d'être venu, de vous être prêté à ces interviews. Merci à Alexandre Jean-Renaud aussi à la réalisation. Lundi, Karine Paulien viendra traiter d'un autre sujet d'actualité avec son dynamisme. Rappelez donc que Stop Suicide est à Genève et qu'également ce centre précisément d'études et de prévention du suicide possède un numéro Help Ado Line, le 022 382 42 42. Belle journée à vous. Et puis, ce serait quoi le mot de la fin de Pierre, si vous aviez un dernier message à des parents qui nous écoutent? Allez, on vous laisse le mot de la fin et on passe juste après vous, Evanescence.
Vous m'honorez. Non, je dirais simplement, accordez à vos enfants cette attention qu'ils ne vous réclament pas toujours parce qu'ils sont très pudiques.
Just too real. There's just too much that time.